Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Philippe Le Caplain.
Le décryptage de la vie politique en France, c'est maintenant sur Radio France Internationale et c'est avec vous Jean-Daniel Lévy. Bonsoir.
Bonsoir.
Directeur délégué de l'Institut de sondage Harris Interactive France. Alors au lendemain des violences à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, une manifestation contre des retenues d'eau a donné lieu à des affrontements violents. Le pronostic vital est toujours engagé pour un des manifestants blessés. La Ligue des droits de l'homme met en cause aujourd'hui la responsabilité des gendarmes, parle d'un usage immodéré et indiscriminé de la force. De son côté, l'eurodéputé écologiste Benoît Biteau dit ceci: on a assisté à des scènes de guerre qui illustrent une dérive violente de l'État. Jean-Luc Mélenchon sur Twitter s'en prend aux braves M qui sont ces brigades de policiers à moto. Sans ce cirque, il ne se passerait absolument rien d'autre qu'une marche dans les champs. La réaction d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail, ce matin sur France Inter.
Lorsqu'il y a des mauvais gestes, des fautes commises par les forces de l'ordre, il y a des enquêtes et il y a des sanctions. Mais quand je dis ne pas inverser l'échelle de valeur, c'est ne pas faire porter la faute du désordre sur les forces de police. Le problème, ce sont les fauteurs de troupes, ce sont les casseurs, ce sont les émeutiers. Lorsque j'entends des responsables de gauche hier parler, comme vous l'avez rappelé, d'une promenade dans le champ, parler d'une manifestation pacifique, alors que dans le même temps, nous avons des images sur lesquelles nous voyons des policiers qui subissent des tirs de mortier, des tirs de cocktail Molotov, qui sont agressés, qui sont blessés. Et donc, n'inversons pas les valeurs.
Le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel, accuse, lui, Emmanuel Macron, de créer un climat de guerre civile, de compter sur les violences dans les cortèges contre la réforme des retraites pour retourner l'opinion. Jordan Bardella du RN ne dit pas autre chose.
Emmanuel Macron ne maîtrise plus rien aujourd'hui. Emmanuel Macron a perdu la bataille de l'opinion. Il est aujourd'hui, dans les rues du pays, en train de perdre la bataille de l'ordre public. Je pense que Emmanuel Macron prend un plaisir malsain à ce désordre et à ce chaos. Il avait fait la même chose pendant les Gilets jaunes, souvenez-vous, avec la volonté de laisser le désordre s'organiser. On dirait qu'il pousse ce mouvement qui spécule sur la violence et sur l'épuisement du mouvement social pour ensuite arriver et dire « je suis le parti de l'ordre » et décrédibiliser le mouvement. Il joue depuis plusieurs semaines avec une boîte d'allumettes à côté de la station essence. Et il vient nous dire ensuite, terminé, on tourne la page. Mais non, c'est pas terminé.
Sur ces violences qui émaillent des manifestations, François Hollande sur BFM à la mi-journée.
Les violences sont intolérables parce qu'elles détournent l'objet même de ce que sont ces manifestations, soit pour le partage de l'eau, soit pour s'opposer à une réforme des retraites. Donc c'est d'une certaine façon un évitement. C'est une image dégradante pour notre pays à travers ces canaux de télévision.
Jean-Daniel Lévy, directeur délégué donc d'Harris Interactive France. La violence prend le pas sur le fond des sujets, qu'il s'agisse des bassines agricoles ou de la réforme des retraites dont on parlera dans quelques instants.
Oui, c'est effectivement extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'on n'a pas de débat aujourd'hui sur le passage de l'âge légal de la retraite en France de 62 à 64 ans, ou dans le cadre de ce week-end, on n'a pas eu vraiment de débat sur quel type de manière on peut faire pour pouvoir assurer la pérennité de la culture dans certains lieux de France dont les bassines sont censées servir. On a vraiment un changement de regard où, pour faire vite, la question démocratique vient se poser. Est-ce que globalement on peut recourir ou pas au 49-3 pour faire adopter une loi en France? Et est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il puisse y avoir des forces qui soient en présence pour pouvoir empêcher une mobilisation qui est une mobilisation citoyenne et avec effectivement en trame de fond la question de la violence qui reste encore et toujours condamnée très largement par la majorité de Français.
Oui, alors justement, que pensent les Français de ces violences, sachant que certains d'entre eux ont pu dire qu'ils n'en pouvaient plus de ne pas être entendus quand ils défilent pacifiquement depuis maintenant 2 mois?
Effectivement. Alors après, il ne faut pas avoir le culte de la majorité. Il y a une part non négligeable de Français dans le cadre de la dernière enquête qu'on avait réalisée notamment pour la chaîne de télévision française LCI, où 20% des Français déclaraient qu'ils approuvaient le fait que certains puissent avoir recours à la violence. C'est dans le détail, deux franges de population plus que les autres déclaraient approuver. Ce sont d'un côté les jeunes, et de l'autre, les personnes qui sont proches de la France insoumise, la formation politique de Jean-Luc Mélenchon.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI. Il y a donc eu des manifestations contre la réforme des retraites au cours de ces dernières semaines, jeudi encore, et il y a eu cette fois des échauffourées. Tout cela est dans la droite file de ce qui s'est passé cette semaine. Lundi, Tout d'abord, il y a eu un vote sur la motion de censure à l'Assemblée nationale.
Pour l'adoption, 278. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée.
Le gouvernement a donc sauvé sa tête à 9 voix près. Mercredi à la télévision, le président de la République disait ceci.
Au moment où je vous parle, est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme ? Non. Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis ?
Oui.
Les oppositions et les syndicats ont été ulcérés par les propos du chef de l'État et le chef du syndicat CFDT a malgré tout lancé un appel.
Monsieur le Président de la République, recevez l'intersyndicale. Ce que vous auriez dû faire déjà depuis quelques semaines. Recevez l'intersyndicale et on fait pause.
Et François Hollande rejoint Laurent Berger sur cette question.
La meilleure des décisions, c'est d'inviter l'intersyndicale sans attendre la décision du Conseil constitutionnel. Et sans préalable, s'il n'y a pas un mouvement sur la question de report de l'âge légal, il n'y aura pas d'issue du conflit.
Faire une pause, pas question, répond le ministre Olivier Dussopt aujourd'hui.
Je ne crois pas qu'il y a nécessité d'organiser une grande messe de la réconciliation, ça n'a pas de sens. Cette réforme est une réforme qui demande un effort aux Français pour assurer à la fois l'équilibre du système et financer les nouveaux droits que nous voulons créer.
Jean-Daniel Lévy, vous ne voyez pas la situation politique dans une boule de cristal, bien évidemment, mais quels peuvent être les scénarios possibles ?
Les scénarios sont d'une manière ou d'une autre une très grande difficulté pour l'exécutif, quelle que soit la sortie de crise, que ce soit le retrait et la non-promulgation de la loi ou que ce soit l'application de la loi en tant que telle, avec globalement, on le voit bien, un Rassemblement national qui reste aujourd'hui une force politique, même si elle n'est pas la plus exposée politiquement, qui semble en tirer un bénéfice, que ce soit en termes d'intention de vote qui peuvent exister dans le cadre des élections législatives ou d'une manière plus globale en termes d'image, parce que quand on interroge des Français, le regard qui est porté sur les différentes formations politiques présentes à l'Assemblée nationale bénéficie à l'heure actuelle plus au Rassemblement national qu'aux autres forces politiques.
On y reviendra dans quelques instants. Avant cela, il faut savoir que demain, Emmanuel Macron recevra à midi Elisabeth Borne et les principaux cadres de sa majorité pour une réunion à la veille de la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Hier, devant les députés du parti Horizon, le parti de son prédécesseur, Édouard Philippe, elle s'est montrée toujours aussi déterminée.
Dans un moment où le vent est fort, je ne renoncerai pas à convaincre, à bâtir des compromis, je ne renoncerai pas à agir. Nous refusons l'immobilisme et le chaos, nous ne céderons rien aux outrances, à la démagogie, aux intimidations. Unis, nous serons jusqu'au bout les militants du courage, les partisans de la réforme et plus que tout, les artisans des solutions.
La Première ministre qui annonce ce soir, il y a de cela quelques minutes, qu'elle recevra les syndicats la semaine du 3 avril, mais sur d'autres chantiers que les retraites. En tout cas, cette détermination d'Elisabeth Borne n'impressionne pas l'ancien président socialiste. François Hollande n'épargne personne, à commencer par son prédécesseur, le président Macron.
Quand vous lancez une réforme des retraites dans un contexte d'inflation forte et d'inquiétude, parce qu'il y a aussi une guerre en Ukraine, vous rentrez dans un processus d'incompréhension. Deuxième erreur, quand vous proposez une réforme des retraites qui demande un effort à ceux qui ont travaillé dur et qui ont travaillé tôt et rien à ceux qui ont les revenus les plus élevés, c'est aussi un contresens. Quand vous commencez par discuter avec une organisation politique, en l'occurrence les LR, plutôt qu'avec les syndicats, vous commettez, là je pense, une nouvelle erreur. Une quatrième erreur, vous engagez une réforme par une procédure qui est celle d'une loi de financement de la sécurité sociale qui réduit le temps du débat et vous finissez, alors que vous aviez prétendu le contraire, avec le 49.3. La cinquième erreur, c'est une erreur de communication. On attendait le président de la République mardi pour qu'il puisse apaiser et il a exacerbé.
François Hollande, dont Emmanuel Macron est le successeur à l'Élysée. Jean-Daniel Lévy, c'est le moment de faire des bilans. Donc Emmanuel Macron vient de faire l'objet de celui que dresse de lui François Hollande. Autre manière de voir les choses sur la séquence, qui s'est achevée par l'adoption de la loi portant l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, vous y faisiez allusion, c'est la place du Rassemblement National. Vous avez publié à Harris Interactive un sondage pour Challenge en début de semaine. Et qu'est-ce qu'il en ressort ?
Ce qu'il en ressort, c'est plusieurs éléments. Le premier élément, c'est qu'il y a aujourd'hui une confiance qui est assez importante à l'égard de l'ensemble des confédérations syndicales et ce qui vient un peu entraver la perception globale selon laquelle les Français n'apprécieraient pas les organisations et confédérations syndicales, ça n'est pas le cas. Et que, qui plus est, dans le cas du mouvement concernant la réforme des retraites, il y a une confiance qui est assez nette et qui ne vise pas d'ailleurs à distinguer la CFDT, la CGT et Force ouvrière, qui sont les trois principales confédérations syndicales en France. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a en général une forme de discrédit à l'égard du politique, hormis une formation politique, aujourd'hui le Rassemblement national, où près de 4 Français sur 10 déclarent lui accorder leur confiance dans le contexte actuel. Et ce, alors même qu'on entend quand même très peu le Rassemblement national, alors même qu'ils ne sont pas présents dans les mobilisations sociales, et alors même qu'à l'Assemblée nationale, ils ont été beaucoup moins identifiés que n'ont pu l'être d'un côté les députés de la majorité, et l'autre, les députés qui situent le plus à gauche de l'échiquier politique.
Et il faut noter que la crédibilité du Rassemblement national va bien au-delà de ses sympathisants. Dans les autres formations politiques, même opposées à son idéologie, le RN marque des points.
Oui, bien sûr. En fait, quand on regarde, le Rassemblement national avait réuni 19% des suffrages au premier tour des dernières élections législatives. Là, globalement, vous avez 40% des électeurs qui déclarent leur accorder d'un point de vue général leur confiance. Donc, ça dépasse le strict cadre et on peut voir qu'il y a aussi bien des personnes qui sont proches de la France insoumise, c'est-à-dire la formation de Jean-Luc Mélenchon, que des républicains, la formation politique de droite en France, qui accordent une confiance pour des parts importante à l'égard du Rassemblement national, dont le discours apparaît comme étant non seulement ferme, mais également relativement posé et pas susceptible de mettre, si vous me permettez l'expression, de l'huile sur le feu dans la situation actuelle.
Marine Le Pen a dit ceci, la véritable alternance c'est le Rassemblement national, après Emmanuel Macron ce sera nous. Est-ce que le RN a gagné la bataille de l'incarnation de l'alternance ?
Aujourd'hui, oui, quand vous interrogez les Français sur quelle formation politique à l'heure actuelle incarne l'opposition à Emmanuel Macron, on peut voir de manière très nette que c'est la première formation politique, très largement devant la France insoumise, pardon, la formation de Jean-Luc Mélenchon. On peut d'ailleurs rappeler que deux fois de suite, c'est Marine Le Pen qui s'est retrouvée face à Emmanuel Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle, et que dans le cas des élections européennes, qui est un autre scrutin au niveau national, les deux formations politiques qui sont arrivées en tête, c'est d'un côté le Rassemblement national, et de l'autre, la formation du président de la République, Emmanuel Macron.
Merci Jean-Daniel Lévy pour ses commentaires, directeur délégué de l'Institut de sondage Harris Interactive France dans Dimanche Politique sur RFI.